Frères et sœurs, je vous invite en premier lieu peut-être à relire la deuxième lecture, l'épître de Paul, parce que c'est une très belle profession de foi que nous avons et nous savons que la parole de Dieu est sans doute l'appui sur lequel il nous faut d'abord nous appuyer pour notre prière et je dirais même pour notre formation chrétienne, c'est la parole de Dieu. La petite Thérèse disait que tous les autres livres, petite Thérèse de Lisieux, bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, petite Thérèse de Lisieux disait tous les autres livres, elle ne trouve pas trop ce qu'elle cherche. Par contre, dans la parole de Dieu, elle trouve énormément de trésors. Elle n'avait pas accès à la parole de Dieu comme nous aujourd'hui, aussi facilement que nous aujourd'hui. Donc, n'hésitons pas à nous tourner vers la parole de Dieu, et pendant cette période de vacances qui va s'ouvrir, où nous aurons peut-être davantage de temps, n'hésitons pas à prendre un peu de temps pour la lire simplement, pour prier avec, quand on se balade aussi. Alors maintenant, on a l'avantage avec les téléphones, avec les smartphones, c'est qu'on peut avoir, quand on a de la connexion, on peut avoir partout accès à la parole de Dieu, hein, puisque c'est sur des sites internet aisément. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cela. La deuxième lecture que nous avons entendue tout à l'heure, eh bien, n'hésitez pas à la reprendre, à la relire. C'est une très belle profession de foi qui nous dit vraiment ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés, comment nous sommes appelés à vivre. Et l'évangile de ce jour, eh bien, est dans cette consonance aussi, parce que c'est une série de maximes que Jésus fait. Alors, on peut être un peu désarçonné, un peu surpris par certaines d'entre elles, parce qu'elles sont radicales, elles sont exigeantes, mais elles ont un point commun, c'est qu'elles nous invitent à ne pas tergiverser avec notre rapport à Dieu et à Jésus. Hein, Jésus dit qu'il est celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, donc c'est de lui dont il parle, n'est pas digne de moi. Donc c'est vraiment la personne de Jésus, ce Jésus auquel nous avons donné notre vie par la grâce de notre baptême, auquel nous adhérons comme nous sommes dans cette Eucharistie, parce que c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre en chrétien. C'est toujours lui qui agit dans la liturgie, hein. C'est d'abord lui le premier acteur de la liturgie, c'est d'abord Jésus que nous venons rencontrer. Eh bien, ce Jésus nous dit, vous ne devez pas tergiverser, il est exigeant sur cette question-là, vous devez me prendre en premier, sur la liste de nos priorités, sur la liste des choses importantes dans notre vie, Jésus est en haut, à l'égal de Dieu évidemment, parce qu'il est Dieu, mais voilà, c'est Jésus que nous choisissons. Et les paroles sont exigeantes, l'aimer plus que son père ou sa mère, l'aimer plus que ses enfants. Bon, moi j'ai pas d'enfants, je me rends pas compte, mais quand même j'ai l'impression quand même que les parents aiment beaucoup leurs enfants. C'est très bien, mais c'est très exigeant. Alors, il ne faut pas le vivre comme une concurrence qui ferait que ça voudrait dire pas aimer ses enfants. Évidemment que non. Évidemment que non. Mais ça veut dire aimer mieux et aimer de façon plus ajustée. Et ça veut dire qu'on ne prend pas nos enfants pour des idoles. On ne met pas nos enfants à la place de Dieu. C'est pas parce que nos enfants vont vivre après nous que nous allons vivre. Nous allons survivre. Nous allons tracer notre chemin. Comme malheureusement cette tendance aujourd'hui, c'est comme si c'était une réincarnation de sa propre vie dans son enfant. Ça n'a rien à voir. C'est pas chrétien. Notre enfant est un don de Dieu. Ben, vos enfants sont un don de Dieu. Ils sont votre chair, certes, mais ils sont d'autres personnes que vous. Et ils ont leur vie. Et ils l'amèneront. Et que vous ayez des enfants, que nous ayons des enfants ou que nous n'en ayons pas, ça ne change rien sur la beauté de notre vie et sur le fait que nous vivions pour l'éternité, que nous soyons promis à la béatitude céleste, etc. Toujours est-il que voilà, choisir Jésus en premier, ça c'est incontournable et ce choix il nous faut le refaire tout le temps parce que nous sommes tout le temps tentés par les séductions du monde, par l'argent, par le pouvoir, à mettre autre chose que Dieu à la première place. C'est comme ça, ça fait partie de notre mal-être, de notre mal lié au péché originel. Nous sommes blessés sur cette question-là. Il est difficile pour nous de mettre Dieu en premier. ne serait-ce que par le fait qu'on doute de Dieu. On doute non pas simplement de son existence, ça c'est pas toujours, mais en tout cas on doute que Dieu soit si bien, si intéressant que ça, qu'il soit si bon et que ça vaille vraiment la peine de le mettre en premier dans nos vies. On se dit, ouais, mais enfin quand même, hein, j'ai plein de choses à faire à côté. Eh bien si, Jésus doit être en premier, il doit être dans la liste. Voilà, et puis l'évangile se poursuit en parlant des disciples, en parlant des prophètes. Ça, c'est le mystère de l'Église. C'est le mystère de l'Église, ça veut dire que nous sommes tous les disciples de Jésus. À partir du moment où nous le prenons en premier, nous sommes ses disciples. Nous sommes tous aussi ses prophètes, hein. Et donc, de nous accueillir les uns les autres comme accueillant Jésus-Christ lui-même, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile, là aussi, c'est une manière de se regarder les uns les autres différente. Le mystère de l'Église est un mystère qui est grand et qui est difficile pour nous à accueillir dans la société actuelle aussi, parce qu'il y a des scandales dans l'Église qui nous déstabilisent, et je peux le comprendre, enfin, moi-même... Parfois, c'est un peu dur, mais le mystère de l'Église est grand et il n'empêche qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes invités à nous accueillir comme Jésus lui-même, mutuellement, comme Jésus. Et donc Jésus, là-dessus, vous relirez le passage de l'Évangile, Jésus est très clair. Voilà, c'est cela, vivre en chrétien, mettre Jésus en premier, accueillir ses disciples comme Jésus lui-même, et donc ainsi vivre en chrétien. Et pour illustrer un peu cette vocation chrétienne, alors donc il y a la première lecture, hein, la deuxième lecture dont je vous ai évoqué tout à l'heure, puis je me suis dit, alors je vous en ai déjà parlé dans d'autres homélies, mais je vais vous lire un extrait de la lettre à Dioniète, une lettre du deuxième siècle. Donc c'est un chrétien qui écrit à Dioniète qui est un païen. Et c'est une lettre où il cherche à convaincre le païen que finalement, être chrétien, c'est la vraie foi, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Voilà. Je pense que vous en êtes tous convaincus, et c'est ce que vous avez envie de faire avec ceux qui sont autour de vous. Les convaincre que c'est le meilleur choix qu'ils puissent faire, c'est de devenir chrétien. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il dit sur le comportement du chrétien. C'est quoi vivre en chrétien ? Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour leurs vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, comme par exemple voter, aujourd'hui à La Roche. Ils acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges, mais comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à la table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont les citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, le chrétien, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant il n'appartient pas au corps. Comme les chrétiens habitent dans le monde mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait du tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même que le monde déteste les chrétiens, sans que ceci lui ait fait du tort, mais parce qu'il s'oppose à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le corps. Et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle. Ainsi, les chrétiens campent-ils dans un monde corruptible, en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif, et les chrétiens, persécutés, se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Voilà, alors ça continue, hein. C'est pas mal. Donc, demandons au Seigneur de vivre vraiment notre vocation chrétienne, non pas en étant des originaux pour l'originalité, mais en étant chrétiens dans ce que nous sommes au quotidien, en vivant, mettant Jésus en première place, en aimant son Église, et en vivant en chrétien autant que nous le pouvons. Voilà. Et à cette approche de période de vacances, justement, il est bon de se le rappeler, parce que comme les autres, beaucoup d'entre nous vont prendre un temps de vacances, mais comme les autres, donc nous allons prendre ce temps de vacances, mais nous allons le vivre aussi différemment des autres. Amen.